Bonjour, je m'appelle Kyoko Yoshizawa.
D'abord, je vais présenter un plan de la communication. Je suis de projet dans ce grand articulation état des lieux sur le système scolaire et musique à l'école japonaise. Problématique, question de recherche. Ensuite, présentation sur le cadre de la formation initiale et objectifs principaux du projet de recherche. Et à la fin, résultat et l'élément de conclusion, discussion. Bon. Question de départ. État des lieux en relation de la recherche minière. L'école élémentaire japonaise est porteuse de diverses pratiques musicales spécifiques. La plupart de ces pratiques est souvent appliquée au contenu des manuels scolaires examinés par l'État. Vu à travers des tendances internationales face à la globalisation venue des pays anglo-saxons et européens, la musique, comme les autres domaines artistiques tels que les arts plastiques, les arts visuels, la danse, le spectacle théâtral, s'intègre dans l'éducation artistique. Mais au Japon, il n'y a que deux domaines artistiques au programme de l'enseignement obligatoire. De 6 à 12 ans, c'est l'école élémentaire. La scolarité se fait en 6 ans. Dessin et travaux manuels et musique. Pour le collège, c'est 3 ans. On fait en 3 ans. Beaux-arts et musique. La réalité. Oui. Je parle un petit peu de notre réalité. Il y a beaucoup de valeurs de manuels scolaires examinés par l'État. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'étudiants forts en musique. Ils sont pas bien formés en musique. Donc, la plupart des gens qui enseignent toutes les matières. Donc, c'est la réalité, c'est je vous fais lire. Donc, juste je dis à la fin. L'importance de l'existence du manuel scolaire facilitant la préparation d'une leçon de l'éducation musicale permet de sauver des enseignants de tout genre faibles en musique. L'enquête réalisée en 2006 par Madame Sugie qui travaille dans l'université de Shiga, c'est à côté de Kyoto, montre que 90% des professeurs d'école élémentaire enseignent la musique dans les classes en utilisant majoritairement les manuels scolaires. Donc ensuite, je vous présente notre système d'éducation scolaire qui est fondée par deux pivots, en fait, programme national et manuel scolaire. En fait. Notre programme national, en général, le programme de la musique à l'école élémentaire en vigueur est celui révisé en 2008, mis en œuvre à partir de l'année scolaire 2011. Depuis deux domaines. La musique comporte deux domaines. L'expression dans lequel on comprend trois activités. Pratique vocale, pratique instrumentale et création musicale. Et l'autre domaine, c'est l'appréciation. C'est-à-dire que c'est l'écoute des œuvres musicales. Les élèves étudient en 6 ans de scolarité un ensemble de connaissances musicales de base. Vocabulaire spécifique et signes simples, tout simple. À travers les activités menées, ils développent la capacité d'analyser des éléments tels que la sonorité, le rythme, la vitesse, la mélodie, les nuances, les couches sonores, la tonalité d'échelle, la répétition, l'harmonie, la question et la réponse, la variation, la relation de la verticalité et horizontalité, ils sont ainsi conduits à les apprécier. à les connaître en fait. Donc je vous présente l'objet de la musique à l'école. Donc l'objet, c'est à partir des activités d'expression et d'appréciation, la musique forme les élèves à aimer la musique et à y être sensibles, à cultiver les compétences fondamentales de l'activité musicale et son esthétique. Ça, c'est l'objet de la musique à l'école. Ensuite, je vous présente brièvement notre manuel scolaire. En général, la diversité des cultures musicales présentées dans le manuel scolaire se traduit par trois catégories. Premier, c'est la musique de culture populaire issue de nos pays japonais. En deuxième, musique traditionnelle du Japon. Troisième, l'ensemble de la musique du monde, excepté 1 et 2. Donc premier, on étudie à partir de CE2. Troisième, c'est à partir de CM2. Ça commence à étudier dedans. C'est très, comment dire, dégradé en fait, l'apprentissage. Je vous présente une image de notre manuel scolaire. Ça, c'est correspond à peu près à CM2. C'est la musique de notre pays, en fait, de notre pays. Au centre, c'est le cadre du Japon. Il y a plusieurs musiques qui sont présentées. Ça dépend des régions. Ici, Tokyo. J'avais travaillé à Aichi, ici. Et maintenant, je suis dans le Nord, ici. Absolument. Ensuite, c'est une image centrée sur la fête de Gion qui se passe à Kyoto. C'est une fête très, très connue. Avec un char dans lequel il y a des musiciens. Et puis les jeunes, c'est les hommes qui tirent. C'est fait bouger la chair. Ça, c'est une page qui correspond au niveau de CM2 sur l'étude de la musique traditionnelle de Japon. C'est Kabuki, et ça, c'est Kyōgen. C'est un peu satirique, critique, scène critique. Et c'est théâtre de... Je pense que non. Après avoir même âge, on étudie la musique du monde. C'est tout petit, la carte du monde, au centre. Il n'y a pas de la musique française. C'est Afrique, Hollande. C'est, je pense que, Bali. Et ça, c'est en Corée, Chine... Peut-être en Scotland, je ne sais pas.
Écosse, oui.
C'est comme ça, oui. Ça, c'est notre politique liée à la formation d'une identité musicale. On a des chants obligatoires répertoriés de notre identité musicale à l'école élémentaire. La caractéristique de notre programme musical se trouve dans le domaine vocal. L'État l'impose aux élèves d'apprendre 24 chants communs sur 6 ans d'études à l'école élémentaire. Un ensemble de 4 chants est sélectionné par niveau d'études. Cette sélection est appelée notre répertoire patrimonial, qui est chanté de génération en génération. Ça, c'est comme ça. Ça ne paie pas. Toujours, il y a des chants communs depuis après la guerre mondiale. Donc, des années 40, la fin des années 40. C'est une image de chant commun. C'est japonais. Le titre est La cueillette de thé vert. Ça correspond au CM2. Bon, question de départ face à la pratique de la danse traditionnelle des pays étrangers. Donc, musicalement, il y a des différences entre les musiques existantes au Japon. Par exemple, la différente composition des notes utilisées sur l'échelle de la musique d'Okinawa. Je n'ai pas préparé le son. La musique d'Ainu. Les Ainu sont les peuples autochtones japonais. Ils présentent une technique vocale spécifique. Il est étonnant d'exclure les cultures musicales de manière scolaire de musique. Je vous fais écouter, c'est une chanson à faire du saké. Ensuite, dans le domaine instrumental, le koto et le shamisen se classent parmi les instruments de musique traditionnelle qui symbolisent la musique traditionnelle du Japon. On écoute un exemple de cette musique. La mets de printemps. C'est connu, je pense. Ça, c'est le koto. Shakuhachi, c'est une flûte à bambou. Ensuite, à la fin, la musique théâtrale no est une de nos musiques traditionnelles avec la voix d'homme très grave. Je vous fais écouter un exemple. C'est pas la voix, plutôt un cri. De plus, l'intérêt faible chez les jeunes japonais pour notre musique issue de la tradition résulte de la position d'avantage de la musique occidentale dans les apprentissages vécus à l'école. En fait, je ne connais pas bien notre musique traditionnelle. Donc, on n'a pas eu la formation solide. Donc, on peut dire que nous avons promu à l'école japonaise la musique fondée sur le système tonal de la musique occidentale. Une vertue vers d'autres domaines artistiques permettrait d'alimenter et d'enrichir les concepts pour l'apprentissage musical. Mais la prise de conscience de ces concepts et les mises en valeur est loin d'être diffusée dans le système scolaire japonais. Par exemple, l'apprentissage de la danse est indissociable de celui de la musique. Ce fait n'est pas pris en compte par les responsables de programmes scolaires japonais. En même temps, la pratique de la danse traditionnelle est négligée comme outil pédagogique. L'autre raison qui nous a fait prendre pour l'objet du domaine de la danse se rapporte à la rénovation du programme de BES au collège. À partir de l'année scolaire d'avril 2012, l'apprentissage de la danse est devenu obligatoire. La danse est classée en trois groupes. La danse création, la danse folklorique, la danse rythmée de notre temps. Mais la valeur éducative de cette activité physique ne fait pas écho à l'éducation musicale scolaire. Nous basons sur le constat d'une véritable expérience vécue en France, nous pensons qu'il est nécessaire de prévoir la perspective d'avenir face à l'écho de la pratique obligatoire de la danse au collège. Introduction de cette pratique au niveau de l'enseignement élémentaire nous conduit depuis 2010 à poser les principes de la pratique de la danse folklorique au sein de la formation initiale d'éducation musicale destinée aux futurs professeurs japonais enseignants au niveau élémentaire. La liste de répertoires de musique traditionnelle du monde présentée dans le manuel scolaire est établi en puisant le plus souvent dans le répertoire de la danse appropriée. Mais l'étude de cette musique à l'école devra se faire au moins au moyen de l'activité l'écoute avec un support audiovisuel. Ce dernier, tant à usage scolaire que commercial, montre souvent une image démodée, ceci risque de donner une fausse information aux élèves. Par exemple, il est indispensable que la danse soit pratiquée en costume traditionnel. Qu'est-ce qui n'est pas vrai en France ou au Japon? Ainsi, connaître la réalité de la pratique de danse traditionnelle au milieu scolaire en France nous permet d'ouvrir une dimension d'apprentissage vers la globalisation de notre éducation musicale des scolaires. Comment s'organise cette pratique? Sous quels principes? Avec quelle méthode? En quel moment et situation? Notre principe pour conduire la formation initiale du futur professeur japonais d'école élémentaire consiste à éviter l'inondation de fausses informations médiatisées ou la transmission par la théorie écrite sans application réelle. C'est ainsi que le répertoire que nous établions est basé sur celui issu d'une longue observation des écoliers français qui pratiquent la danse traditionnelle au milieu scolaire dans le temps actuel. Bon, première question. Objectif principal du projet de recherche d'aujourd'hui. En passant par l'expérience vécue de la danse pratiquée en formation initiale que nous organisons, comment les étudiants ont-ils réagi? Quelles difficultés ont-ils rencontrées à travers cette pratique? Et finalement, qu'est-ce qui a changé dans les comportements à travers cette expérience qui a pu les toucher dans les affects les plus intimes? Comme vaincre sa timidité, oublier la peur d'être ridicule, toucher son partenariat, etc. Bon, comme ça. Mais tout petite chose. Je vous présente notre cadre de la formation initiale en musique, réalisé à l'Université d'éducation d'Aichi de 2010 à 2015. L'Université d'éducation d'Aichi est une très grande université nationale située dans le département d'Aichi, spécifiquement réservé à former de futurs enseignants de niveau primaire et secondaire. C'est comme SP de France. Elle a un cursus master doctoral. Nous avons 5 ans et demi de service dans cette université. L'ensemble de la formation initiale d'éducation musicale compte 2 programmes en première année, 2 programmes en deuxième année. L'enseignement de cet ensemble de formation diffère selon les semestres. Donc un programme compte 90 minutes, 15 fois. Nous sommes chargés de cette formation pour le deuxième semestre d'octobre à mars de l'année suivante, réservé aux étudiants spécialisés en musique en première année, à peu près 18 ans, 19 ans, que nous organisons sous des lors d'octobre à janvier de l'année prochaine. Ça, c'est sous suggestion de base de notre cadre de pratique de la danse. Lors de leçons de musique à l'école, on utilise obligatoirement le manuel scolaire examiné par l'État. Il ne comporte presque pas de jeu chanté ni jeu dansé. La pratique de la danse n'y figure pas, d'autant plus que la pratique musicale visant à l'expression corporelle y est très peu représentée. Aux premières années, nous avons introduit 3 ou 4 séances de pratique de danse folklorique sur 15 séances en semestre. En général, de décembre à janvier, dans la période froide, parce que danser, c'est une sorte d'exercice physique qui permet de s'échauffer. Au fur et à mesure, nous avons augmenté la part de la danse sur le répertoire en 6 ans. Au début de l'année 2010, c'est juste deux danses que j'ai introduites. Actuellement, on compte à peu près une dizaine de danses. Le répertoire est constitué par celui que nous avons observé longuement dans des écoles françaises. Liste des écoles observées. Premier, c'est j'ai fait à peu près en 2000, quand j'étais vécu en France. L'école Léon Muraille, c'est un tout petit village qui s'appelle Gatier, en province. Ensuite, l'école Duplex, dans le 15e arrondissement de Paris. Actuellement, je travaille avec l'école Louvet, qui est située au centre de la France. Une condition s'impose, la capacité de danser moi-même, nous-mêmes. Et puis, j'ai bien choisi du répertoire pour débuter, en fait, tout simple. facilité à danser, pas de difficulté. Donc, nous avons évité la musique de danse à 3 temps. Je ne sais pas à quelle raison. Ça ne marche pas. À temps tel est, non. Donc, moyen, c'est la paratransmission orale avec le support audiovisuel. D'abord, je vous présente, premier exemple, une danse qui se passe à l'école du Prec. Ça, c'est enseignant, c'est PVP, professeur de la ville de Paris, qui enseigne la musique et la danse. Ensuite, je vous présente nos étudiants en danse, le même répertoire. D'abord, ça c'est mai 2010. Juste. C'est une polka. Je me sens notre étudiant qui danse. Bon. Ensuite, je vais faire une autre danse, Tsingan. Ça, c'est du film 2015. Il n'y a que des filles. Ensuite, juste une contre-danse. C'est une danse très difficile. Mais on danse. Ça, c'est le répertoire que j'ai réalisé. C'est 6 ans d'expérience passée. Quels résultats peut-on constater chez les étudiants japonais en formation par la pratique de la danse traditionnelle? Réalisation des enquêtes par écrit en 2015. Lors du dernier cours daté 29 janvier l'année dernière à l'Université d'éducation d'Aichi. Participation de 29 étudiantes japonaise, il n'y a que des filles, sur 35. Juste, j'ai demandé une simple. Simplement demandé écrire librement sur papier. Question ce qu'ils ont senti et ressenti à travers la pratique de la danse dans le cadre de la formation initiale en matière musicale de niveau élémentaire. Bon, je vous présente le résultat résumé en 5 points. Quel affect se sont produits ces yeux dans l'expérience vivante menée dans la formation? Premier, la pratique appréciée par tous avec un avis positif. Donc je vais faire lire. Je pense que ce sont des résultats écrits par nos étudiants. En fait. Il y a beaucoup de points communs. Deuxième point, problèmes techniques et difficultés rencontrées. La difficulté de faire les pas en sentant et associant avec le rythme de la musique. On sait qu'il est plus important de danser sur le rythme plutôt que de se tromper dans les gestes et pas codifiés de la danse. La difficulté de suivre les pas et les mouvements. La fatigue inattendue plus qu'on le pensait. Ensuite, troisième point, stimulation vers la constitution de la motivation d'apprendre, de la vision globale à la vision locale. Donc, à la fin, c'est très important, c'est présenter les intérêts pour la danse japonaise en comparaison avec la danse occidentale. Et quatrième point, moyen de communication et établissement de la relation humaine. C'est bien, il y a des choses très importantes. Permettre d'enlever la honte de danser. Sourire en dansant, c'est ce qui est très bien. Et puis, former l'approfondissement des liens personnels. Donc, tout est bien, je pense. Et à la fin, une étudiante a écrit « J'aimerais enseigner la danse à mes élèves à l'avenir. La danse est un moyen simple d'initier les enfants à la culture des pays étrangers. » Donc, je vous présente juste quelques éléments de conclusion. L'application de la danse traditionnelle observée en milieu scolaire en France aux étudiants japonais initiés à sa pratique dans la formation initiale donne d'excellents résultats. Lors de l'enquête effectuée, chacun donne son avis et exprime ses sentiments. Nous résumons les points suivants avec un constat simple. L'oreille des étudiants de notre temps est habituée à écouter la musique des pays anglo-saxons. Aucun avis négatif ne se trouve pas sur la musique écoutée et accompagnée de danse. La pratique et la danse stimulent les étudiants en leur donnant l'envie d'étudier davantage les éléments autour de la danse tant culturels, historiques et esthétiques que musicaux. La danse est un outil qui permet de préciser l'identité japonaise et tisser des liens interpersonnels entre les camarades. On aperçoit qu'il y a une valeur de cette pratique pour l'éducation musicale. Je vous propose une petite discussion, mais peut-être parce que c'est la première fois que j'ai fait ce type de recherche. Donc, je n'ai pas établi à l'avance une hypothèse. Et puis, je n'ai pas essayé de chercher une théorie qui correspond à notre recherche. Parce qu'il y a plusieurs facteurs, plusieurs éléments à analyser peut-être. Voilà.
J'aurais peut-être une question, mais je ne vais pas interrompre, modifier un tour de parole. Bon, et, enfin, en fait, à vrai dire deux questions. La première, ça serait, mais tu as un petit peu répondu, pourquoi ne tenir aucun compte d'une pratique culturelle qui existe dans l'enseignement scolaire, une pratique nationale, une pratique locale, enfin en tout cas, pourquoi aller chercher des musiques d'autres pays. Nous, on le fait en Occident à travers une espèce d'idéal ou d'idéologie de fraternité humaine, pour le dire gentiment, ou d'espoir de faire danser les hommes la main dans la main à travers une pratique d'autres musiques, mais où l'autre est finalement celui qui nous arrange et pas nécessairement l'autre étudié dans sa différence. Donc bon, le bénéfice est somme toute relatif. Donc pourquoi est-ce que vous mettez dans l'oubli vos pratiques nationales? Est-ce qu'il n'y a pas un retour du folklore à travers des questions de pouvoir local, par exemple, des affrontements? Et la deuxième, c'est est-ce qu'il y a des moments dans le quotidien des élèves, ils se touchent, où il y a un contact physique, ritualisé, quotidien, comme celui qu'on peut voir dans ces danses. Est-ce que c'est quelque chose de totalement nouveau, ce contact physique ritualisé, ou est-ce que ça apparaît à d'autres moments du quotidien?
Chez nous, on n'a pas de la culture de danser. D'abord, de la culture de danser dans la vie quotidienne.
C'est seulement dans les fêtes, en fait.
Dans la fête, c'est oui.
Mais c'est pas tout le monde qui danse dans les fêtes.
Non, c'est-à-dire qu'on a perdu beaucoup de culture d'origine japonaise. C'est-à-dire que c'est à partir de la modernisation du pays. On a inspiré beaucoup de culture anglo-saxonne et occidentale. Et puis,
pourquoi, à ton avis, comment tu expliquerais ça? Parce qu'effectivement, il y a ce passage d'une modernité très violente qui arrive quasiment à la sortie d'un féodalisme qui était très différent de ce qui se passait en Europe. Pourquoi est-ce que ça...
Très récemment, je pense que ça se traduit par les clans d'idées de la globalisation. Pour celui, depuis la deuxième moitié des années 90. Donc, la musique des pays étrangers permet d'être outil pédagogique et de peut favoriser la compréhension de la culture musicale du monde qui fait la nôtre. Et puis, autour, c'est-à-dire que depuis la naissance, moi, notre génération, on ne connaît pas, on n'étudie pas à la formation initiale non plus. Notre musique traditionnelle.
Pourtant, pour se transmettre, elles doivent bien être enseignées. Et cet enseignement n'est jamais pensé, n'est jamais théorisé, n'a pas de lisibilité, n'est pas visible. Parce qu'il existe forcément, sinon la culture mourrait.
Ça existe, je pense. Mais comme l'école est très très cadrée, en fait.
Ça a l'air d'être spécialisé. Il n'y a que certaines personnes qui dansent et donc qui doivent apprendre dans des cercles spécifiques.
Oui. Ce sont des associations, par exemple, qui n'entrent pas dans le milieu scolaire. Parfois, on demande de faire venir, en fait, d'enseigner la musique instrumentale et la danse. Mais c'est, ce n'est pas systématisé en fait dans notre système. Et puis, les professeurs n'est pas bien formés non plus avec la, notre musique. Et puis, depuis la naissance, c'est, on écoute la musique occidentale normalement. Et puis, les jeunes gens souvent écoutent. Ce sont des la musique de médias, médiatisée, la musique populaire du monde entier. Donc, écouter par exemple la musique de théâtre noir, c'est une nouveauté pour les jeunes gens, nouveauté, même c'est très éloigné de la vie quotidienne.
Nous, on écoute souvent DJ Crush, qui est quand même un des grands DJ japonais, un des plus grands DJ au monde, même.
Et quelque part, on voit quelque chose de similaire en France. Oui. Je veux dire, la perte de la musique savante occidentale dans l'enculturation familiale. Donc, c'est quelque part, il y a un phénomène qui est similaire.
Mais maintenant, j'ai pris la conscience de récupérer comment intégrer notre culture de base, en fait. Comment récupérer, comment intégrer dans notre programme de formation ici, en passant par la situation de l'enfance.
Je peux peut-être juste réagir. Il y a une phrase qui m'a vraiment tiré l'œil. Pas l'oreille, mais...
Pardon, excusez-moi.
C'est quand tu dis, quand ils disent pourquoi ils ont aimé, et ils disent c'est la fraîcheur des sentiments qui vient de la différence avec ce qu'ils ont vécu dans l'école. Et je me demande si ça n'a pas un rapport avec le côté très étatique de, il y a des chansons qui sont ordonnées par l'État. On va même pas choisir nous-mêmes avec la classe le répertoire chanté. Et peut-être que justement le passage par une autre culture, tout à fait, mais on continue à faire la musique, mais c'est une autre culture.
En fait,
peut-être que ça fait du bien et ça permet de revenir de... Oui, mais au fond, chez nous, au Japon, qu'est-ce qu'il y a, à part ce que l'État dit, qu'est-ce qui pourrait... Peut-être que c'est juste de faire ce chemin-là. Je me pose la question, est-ce que c'est pas justement nécessaire à un moment donné de s'émanciper de ce côté très étatique de la culture du Japon? C'est bien, d'ailleurs, vous devez... lire cette chanson. Mais à part ça, est-ce qu'elle est vraiment populaire, cette chanson? Enfin, est-ce que ça ressemble à la musique populaire japonaise ou pas du tout?
Non. Ce sont des chants, on dit, démodés. Moches.
Ils ont été... D'accord. Oui, donc c'est pas...
Ce sont des chants appelés chants du ministère. L'éducation nationale.
Ils ont été inventés quand? C'est pas du tout à partir de...
Non, c'est 1900, autour de 1910, 20, 30, 40, c'est ça.
Et pas du tout en connexion
avec... Avec le texte japonais accompagné de la musique occidentale.
C'est pas des consonances japonaises, c'est pas des...
Non. Non.
Je pourrais parler pendant 2 heures de ce que vous avez montré là. Donc je ne prends pas la parole parce que je m'avais trop long à dire. Je fais travailler beaucoup d'étudiants asiatiques et je connais assez bien la culture japonaise. Donc il y a énormément de choses à dire, mais on n'a pas le temps de...
Oui.
Bon, si on édite les actes, parce qu'on va confier les actes à Laurent, c'est lui qui a plutôt organisé. Je pense qu'il va piloter les actes. Il sait faire ça. Et pour votre papier, je vous aiderai à le construire. Quand vous aurez à le mettre en forme. Tout ce que je peux dire, c'est que cette situation qui vous fait réagir tous, hein, du clash entre une culture traditionnelle que les Japonais eux-mêmes ne connaissent plus très bien, sauf dans certains domaines, mais pas dans le domaine musical. Il y a des domaines où le Japon a mieux conservé ses traditions que la musique. Mais dans le domaine de la musique, dans tout l'Extrême-Orient, hein, Japon, Corée, Chine aussi, il y a exactement le même phénomène, même si ce n'est pas tout à fait la même culture. Eh bien, les autochtones, si je puis m'exprimer ainsi, ont coupé les ponts avec leur propre tradition. Et quand on va là-bas, on a la plus grande difficulté à entendre sur les médias de la musique traditionnelle. Je me souviens, en 1980, sur les radios japonaises, je cherchais vainement des musiques traditionnelles qui m'intéressaient beaucoup, et j'en trouvais pas. Il fallait déjà aller au Kabuki, ou au Théâtre Ono, ou voir des choses comme ça. Comme si vous êtes à Pékin, il faut aller à l'Opéra de Pékin, si vous voulez écouter l'opéra chinois. Mais à la radio, vous allez chercher longtemps. Tout est massivement occidentalisé. Donc ça explique qu'il bon, y a une déculturation qui s'est produite, très violente. Et c'est vrai que les jeunes japonais, par ce type de pratique...
Mais juste garder, on garde.
Voilà.
Solidement.
Ils peuvent redécouvrir quelque chose. Et peut-être qu'il y a une curiosité qui se manifestera en pouvant peut-être sauver. Moi, je passe mon temps avec les étudiants asiatiques à me battre avec eux pour qu'ils s'intéressent à leur propre culture. Autant je peux être très content quand ils jouent une sonate de Beethoven ou un Brahms ou un Debussy, mais quand ils traitent avec une grande condescendance pour leur propre tradition, ça me révulse. Et bien, quand même, au bout de quelques années, ils changent de position. J'arrive à les faire changer de position. Je m'arrête là.
Mais au Brésil, la situation est pire. Il n'y a jamais eu d'enseignement de musique locale à l'école. En 1905, ils ont instauré l'enseignement comme au Conservatoire de Paris. Et donc la musique qui s'enseigne à l'école, c'est la musique du 18e et 19e siècle occidental. Point. Et à peine aujourd'hui, on commence à tolérer qu'on fasse entrer un peu. Donc, c'est encore un autre type de. Et à chaque fois, il y a quelque chose qui ressemble au colonialisme derrière.
Gérard, il y a une grande différence avec la situation d'Extrême-Orient, c'est que dans la rue au Brésil, dans la vie quotidienne, on peut quand même voir ces choses vivantes. Dans certaines régions, elles sont très vivantes.
Oui, mais c'est ce qui est d'autant plus surprenant. C'est qu'elles sont dans la rue,
oui, mais elles sont déconnectées. Pas à l'école. Elles sont déconnectées totalement de l'école.
Et ni à l'école de musique.
C'est vrai.
Il y a vraiment deux mondes.
Oui. Oui. Mais elles sont vivantes. Alors qu'au Japon...
J'ai une nouvelle question justement sur... Est-ce qu'il y a quand même des zones, par exemple, qu'est-ce qui se passe dans la famille quand on berce un enfant? Est-ce qu'il y a encore des comptines ou des choses comme ça?
Oui, continuez. En fait, je ne connais pas le milieu d'école maternelle.
Non, mais je ne te parle pas des écoles. Je parle dans les familles. Quand tu berces un bébé, tu chantes quoi?
Berceuse.
Oui, des berceuses de Schubert ou de...
Japonaise ou pas?
Peut-être japonaise, oui.
Ah, quand même, oui.
Voilà, et ben,
qui reste quelque chose.
Et qui reste ces zones intimes, qui sont des champs de travail, entre guillemets, de travail, parce qu'on cherche une transformation du monde, on cherche à transformer ce bébé qui hurle en bébé qui dort.
Sinon, on chante, je pense que...
C'est un travail, ça. Ouais. On dirait que c'est un travail, je crois qu'il y en a quelques-uns qui connaissent ça, non? C'est...
On a déjà donné, hein. On n'est pas preneur.
De quoi?
Du travail-là.
Mais bon. Mais en France, il y a des endroits où on enseigne la danse.
Mais moi, ce qui me surprend, c'est que.
Parce que.
La France ne semble pas être un pays particulièrement exemplaire.
Oui,
par rapport à ça.
Oui, c'est pas ça.
Et vous avez réussi à trouver quand même.
Oui, par exemple, c'est comme ça.
C'est bien.
Je pense que
c'est
la ville de Paris est spécialiste à Paris.
Ça, c'est au centre. C'est un exemple qui se passe au centre de la France.
Oui, mais c'est
avec une association locale. C'est danse du Berry. Je m'arrête. Ça commence. C'est le président d'une association qui fait intervenir les musiciens aussi. Je fais pas ça.
Voilà. Je reprends les pas, quatre pas marcher. Quatre pas. 3.35, 4 en avançant ou en reculant. Bref. Partez. J'ai brûlé la tête de ma louette. Parce que j'ai dit que je ne savais pas compter jusqu'à 4.
Tu peux l'interrompre plutôt pour les
services. Oui, oui, d'accord, ok.
Ce que je voulais terminer, je ne voudrais pas manipuler la parole, mais c'est intéressant, il n'y a pas très longtemps, on a organisé un colloque avec la société, à la Société française d'ethnomusicologie, et j'avais lancé une table ronde sur la question de la musique de l'autre, la musique qui n'est pas celle qu'on a. Et ça a été intéressant parce qu'on avait, on avait une personne qui venait du Limousin et qui a dit, mais en fait, la musique de l'autre, attends, mais nous, en fait, c'est la nôtre musique, c'est la nôtre. Mais en fait, ah oui, mais non, parce qu'en fait, nous, les jeunes, ben, ils viennent apprendre la musique, la nôtre, comme la musique de l'autre. Parce qu'en fait, je ne sais pas si c'est clair ce que j'entends. C'est-à-dire qu'en fait, ils viennent, il y a une. Enfin, on est en train de. Ça, ce qu'on voit là, c'est pas du revivalisme au sens ethnomusicologique, mais quasiment, on est en train de se reconstruire aussi. C'est-à-dire, votre travail nous renvoie à nos propres problèmes de patrimonialisation, tous les dégâts qui ont été créés à de multiples reprises, où des musiques traditionnelles ont quasiment disparu à une époque, et là, reconstruit petit à petit par bout, il y a des endroits où c'est perdu, il y a des endroits où on réinvente quasiment des traditions pour... c'est vraiment étonnant cette... Mais voir ça comme un modèle...
c'est génial.
Mais ça me surprend parce que je me dis, on n'est pas un modèle, au contraire, on se débat pour essayer d'éviter de perdre ça, quoi.
La perte, ce qui est amusant, c'est que ça arrange toujours quelqu'un. C'est-à-dire que dans la culture, il y a toujours un moment où une tradition est morte. Et où, quand la pierre tombale est bien froide, d'autres arrivent dessus, viennent pleurer cette perte, mais font absolument ce qu'ils veulent avec, quoi. Toute la culture grecque, à une période de mort, les Romains passaient dans les ruines romaines à Rome sans avoir la moindre idée du sens que ça pouvait avoir, et c'est grâce à la bibliothèque d'Alexandrie qu'on a maintenu les traces. Mais ce fonctionnement-là, d'aller pleurer sur la tombe de quelque chose qui est bien froid pour en faire un truc qui nous arrange, ça se voit à la Renaissance, ça se voit très très souvent, et c'est un processus très pratique dans la culture, parce que c'est très arrangeant d'avoir un fondement antérieur qui assume toutes ces affaires de fondement, de récit des origines, avec lequel on fait absolument n'importe quoi, le mieux comme le moins bien. La Renaissance a été une redécouverte de l'Antiquité, Nietzsche a été une redécouverte aussi de l'Antiquité, mais quand les choses étaient bien froides. Et ce qui est amusant, c'est de voir qui ça sert, à qui ça a profité et qui s'en est servi, justement. Est-ce que ça pourrait servir? Parce que en France, la musique est arrivée à l'école pour faire du chant patriotique et républicain, ce que montrait Michel Alten. Elle est arrivée avec une volonté d'émancipation qui était certes arrivée aux idéaux humanistes, mais elle est aussi arrivée parce que les petits écoliers, ils étaient moins bons que les Allemands en matière de lecture de cartes, donc on allait leur faire du dessin. Puis il y avait une nécessité de l'industrie qui apparaissait clairement à l'époque, et puis il fallait inscrire dans l'âme du citoyen soldat ceux qui fondent l'âme d'une nation, c'est-à-dire des valeurs qui s'expriment en commun, qui ne s'expriment en commun que par la musique. Donc il y a toute une affaire politique derrière. Et on fabrique une tradition.
Dans le Nord, les orphéons sont nés principalement pour que les mineurs expectorent, éjectent les poussières de charbon qu'ils avaient au fond du boulon. C'est une des raisons majeur de la création des ensembles aujourd'hui qui sont importants dans le nord de la France, des cuivres, d'ensembles de cuivres. Je veux dire, la raison,
il y en a plein des raisons. Si on gratte un peu, on va trouver. Il y a l'idée qu'il y a une structure paternaliste avec un père au centre, c'est une autre façon de récupérer un ordre. Puis il y a aussi le fait qu'on on va occuper, de même qu'on occupe le prolétaire avec les jardins ouvriers, on va l'occuper dans des associations où il est par statut interdit par les politiques au moment où s'organise le droit du travail, la possibilité d'association syndicale, c'est-à-dire au moment où se passe pas mal de choses qui peuvent amener un bénéfice collectif d'une rencontre, d'une discussion politique et syndicale. Donc c'est aussi un outil politique. Et c'est toujours amusant de voir comment la refabrication d'une tradition est souvent intéressante. Quand je disais l'autre et l'autre, celui qui nous arrange, tous les mouvements exotiques sont une réinvention du Japon avec l'ère des pêcheurs de perles, de l'Espagne avec Carmen et avec Mérimée et Bizet. L'autre n'est pas intéressant en ce qui nous permettrait d'avoir un pas de côté sur notre culture, il est le produit de notre culture arrangeante qui amène une petite variété, mais ne permettant jamais de trouver une variation. Cet autre n'est pas l'autre, il est celui qui nous arrange. Il y aurait des choses à faire avec
l'exotisme de cigarette.